Alors, donc aujourd'hui, on fait le deuxième cours sur les sacrements. Donc le premier, on avait mis un peu le cadre en regardant comment c'était par rapport à l'Ancien Testament, etc. Et là, cette fois-ci, bon, c'est un petit peu plus technique parce qu'on va essayer de regarder ce que c'est que le sacrement lui-même. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il opère, qu'est-ce qui se passe pendant le sacrement. Alors, donc on va voir dans un premier temps le sacrement et on va se caler sur la définition du sacrement qui est... Attendez, je suis perdue là, je sais plus où j'en suis déjà. Sur le signe, le fait que le sacrement est un signe efficace de la grâce. Voilà, donc on va regarder signe efficace grâce. De la grâce. Après, on va se pencher sur la question de la foi et les sacrements. Est-ce qu'il faut la foi pour que les sacrements opèrent ? Est-ce que les sacrements apportent la foi ? Enfin, c'est quoi le rapport entre la foi et les sacrements qui ont occupé pas mal le Moyen-Âge sur cette question-là et puis qui sont tout à fait d'actualité. Et puis, en dernière partie, on regardera plus la façon dont les sacrements nous préparent au royaume et finalement sont tournés vers l'eschatologie, gros mot qui veut juste dire vers la fin des temps, vers ce qui va se réaliser. Le dévoilement final. Voilà, donc je vous ai mis une citation de Corinthiens et puis et Isaïe, c'est vraiment l'idée du moment favorable et du jour du salut. Et donc dans les sacrements, il y a quelque chose de cette grâce qui arrive et qui fait qu'aujourd'hui, c'est le moment favorable. C'est ce qu'on fait dans la communion, c'est ce qu'on fait quand on reçoit un sacrement. C'est un moment favorable. Voilà. Donc le mot sacrement en fait qui était c'était un serment militaire à l'empereur et donc c'était un serment qui était très ritualisé avec il y avait toute une cérémonie etc et qui manifestait un engagement réciproque aussi bien du soldat que du côté de l'empereur voilà et donc il y a comme un engagement de part et d'autre le sacrement il y a les deux côtés voilà et le sacrement donc la définition c'est le signe efficace de la grâce en un peu résumé. Voilà, donc si on se commence par la partie signe visible de la grâce invisible, donc c'est beaucoup basé, c'est Saint Augustin qui a mis à l'honneur le signe, enfin le sacrement comme un signe. Mes frères, c'est cela que l'on appelle des sacrements, ils expriment autre chose que ce qu'ils présentent à nos regards. Ce que nous voyons est une apparence matérielle, tandis que ce que nous comprenons est un fruit spirituel. Donc il y a bien cette dichotomie et cette distinction entre ce qu'on voit finalement. On ne voit pas grand-chose, une apparence matérielle, mais qui est petite. Et puis, un fruit spirituel qui, lui, est immense. Voilà. Donc, il y a un signe visible de la grâce invisible qui est le monde matériel qui est énervé, enfin, ou qui nous laisse transparaître la vie divine. Voilà. Et l'autre phrase de Saint-Augustin qui est très connue, c'est là, alors en latin, mais je ne suis pas très bonne en latin, donc je vais le dire en français. La parole rejoint l'élément pour produire le sacrement. Donc c'est une alliance et il y a un sacrement qui se passe. Voilà. Donc Saint-Augustin, il a fait la théorie des sacrements, donc c'est lui qui a le premier utilisé le mot de signe et qui a quand même beaucoup travaillé sur la notion de sacrement, surtout en travaillant à partir du baptême, surtout sur le baptême. Voilà. Et donc il le conçoit comme un signe qui exprime quelque chose et qui va laisser une trace durable. Donc c'est pas juste un signe ponctuel, mais il y a cette une habitation et cette grâce qui va durer et qui témoigne de la réalité invisible de Dieu. En un sermon sur le sacrement de l'autel aux enfants, Saint Augustin écrit: ôtez la parole, c'est du pain, c'est du vin, joignez-y la parole et voilà un sacrement. Donc on a vraiment cette idée de physiquement petit, c'est matériellement c'est pas grand chose, c'est du pain, c'est du vin, mais avec la parole et avec l'opération du sacrement, et ben en fait ça devient quelque chose de bien plus grand, voilà. Et donc dans le côté visible des sacrements, on a le geste sensible et les paroles. Et dans tous les sacrements, il y a un geste sensible et des paroles. Même dans le sacrement de la confession, il y a le signe de croix du prêtre qui est un geste quand même, voilà, même s'il y a peu de gestes dans ce sacrement-là. Donc l'action du sacrement sur l'homme, elle se situe à deux niveaux. Donc il y a d'un côté le signe qui touche son corps, donc la partie matérielle qui touche le corps, et donc qui vient rejoindre notre être dans ce qu'on a aussi de corporel et de matériel. Et puis il y a la parole qui finalement s'adresse à l'âme et à notre foi. Voilà. Et donc il a fait un parallèle entre Jean-Baptiste, qui était la voix, et la voix elle passe, elle dure pas. On n'entend pas en continuité. Et puis Jésus qui est la parole. Et la parole, Jésus est le Verbe qui demeure et qui habite en nous. Alors les mots techniques, c'est d'un côté le signe qui s'appelle donc le signum tantum. Et de l'autre côté, il y a l'effet sacramentel. Donc il se passe quelque chose. C'est ce qu'on a dit, la grâce qui arrive. Et ça, c'est le restantum. Et donc pour le baptême, on a vraiment ça. On a d'un côté l'eau, le signe. Qui est l'eau qui coule d'ailleurs, pour être plus précis. Sinon, ce n'est pas de l'eau statique, hein, c'est de l'eau qui coule. Et puis l'effet, l'effet sacramentel, qui est la grâce de devenir enfant de Dieu. Voilà. Mais c'est vrai que pour les autres sacrements, ce n'est pas aussi évident que pour le baptême. Et puis surtout, ça ne répond pas à la question de la présence réelle dans l'hostie. Puisque si on a juste d'un côté le pain et de l'autre côté l'effet au moment de la communion de Dieu qui vient en nous, alors que nous, on adore l'hostie, enfin, on l'a fait tout à l'heure, et voilà, et on pense qu'il y a la présence réelle de Dieu qui est là. Donc, Saint Augustin, il n'a pas été au bout de ça. Et donc, il y a eu beaucoup de variations et de suites à Saint Augustin, des gens qui ont réfléchi. Donc, je vous ai mis quelques noms, comme Isidore de Séville, qui estompe la valeur du signe, et donc il met plutôt l'accent sur les richesses de vie divine cachées sous d'humbles réalités matérielles, donc comme s'il y avait un voile qui nous cache, parce qu'on aurait du mal à voir toute la gloire de Dieu. Et derrière, il y a la réalité divine. Il y a aussi le fait que le sacré, la notion de sacré, passe du signe au signifié, donc c'est pas l'eau qui est sacrée, c'est l'effet que ça a, par exemple. Et donc le sacrement n'est plus un signe sacré, mais le signe d'une réalité sacrée. Donc on est en train de remonter petit à petit le signe visible de la grâce invisible vers finalement Dieu et vers le divin. Alors ensuite les Victorins, donc Guillaume de Champeau, Hugues de Saint-Victor, donc il y en a plusieurs. En fait, ils ajoutent un troisième composant, à côté du signe et du reste en tout, donc ce que je disais sur l'effet sacramentel et le signe, la réalité matérielle, il rajoute le res sacramentum, qui souligne qu'en fait, il y a une transformation de la matière pour qu'elle puisse elle-même être opérante. Et donc, il y a quand le divin vient rejoindre la matière, et ben, du coup, il se passe quelque chose, et c'est pour ça qu'on parle de la présence réelle, par exemple. Voilà. Mais ça peut être la contrition dans le sacrement de la confession. Donc voilà, il y a une transformation qui se passe. Alors elle est de nous, ou elle est du pain, en l'occurrence pour l'Eucharistie. Mais il y a une vraie transformation il y a un troisième composant. Donc il y a le signe visible, il s'appuie sur une réalité matérielle. Il y a une parole qui, jointe à ce signe, va créer un effet. Dans le baptisé, enfin dans la personne. Et puis il y a finalement la transformation qui déborde ça et qui va transformer dans l'Eucharistie le pain en Jésus. Voilà. Alors je vous refais la décomposition. Donc on a le signe, c'est la consécration du pain et du vin. Donc c'est les paroles et on répète les gestes du Christ et la bénédiction. La réalité produite, c'est le corps et le sang du Christ. Et puis le bienfait, où nous, dans la communion, en fait, on reçoit et on a l'inhabitation de Dieu et qui va jusqu'à nous donner la vie éternelle. Donc on a une vie surabondante. Donc ça vient montrer que le sacrement, il touche notre monde en profondeur. C'est pas juste un mot magique ou une façon de rejoindre le divin. C'est vraiment, il y a quelque chose qui vient nous toucher en profondeur. Et qui est au-delà de ce que nos sens perçoivent. Voilà. Donc c'est ce qu'on dit dans le Tantum Ergo. Voilà, ce qu'on voit, c'est un pain. Et il faut les yeux de la foi pour voir Jésus dans le pain. Donc on a ce les sens qui ne permettent pas d'accéder à toute la totalité du sacrement, c'est la foi qui va agir. Saint Thomas d'Aquin, donc lui, il reprend, il a beaucoup travaillé à partir d'Aristote, et du coup, il reprend les concepts de forme et de matière. Alors, la forme, c'est ce qui donne la consistance, le sens, c'est un peu plus fort que ce que nous, on entend par la forme, juste, c'est carré, c'est rond, c'est, voilà. C'est ce qui donne vraiment le sens, la consistance, la réalité de ce que c'est, donc, qui pourrait être dans le sacrement de la confession, de l'absolution, ou au baptême, la parole prononcée. Et puis il y a la matière qui est la valeur de la chose, et on a la vue des feux et la contrition, l'eau qui coule, etc., pour qu'il y ait la rencontre des deux qui font sacrement. Donc c'est une autre façon de regarder les sacrements. On va approfondir saint Thomas d'Aquin sur la partie efficacité, parce que c'est surtout là-dessus qu'il a beaucoup travaillé. Donc à partir du concile de Trente, il me semblait avoir mis la date. Bon, ça doit être plus loin, donc ça a disparu. Je ne sais plus la date, tant pis.
1571 ou
1570 c'est... Ah, bah voilà. Ouais, c'est... Non, ça c'est le numéro. Bon, enfin, c'est pas grave, on retrouvera. C'est pas très grave, mais on est un peu plus tôt que ça, je pense. Ah, bah voilà, c'est un peu. Je savais bien quand même que je l'ai mis quelque part. C'est un jeu de piste en fait, mon cours. Donc, le Concile de Trente, en fait, qui a vraiment répondu justement sur les sacrements, enfin, il y a toute une partie sur la partie sacrement. Du coup, le sacrement est considéré comme un rite sacré qui symbolise la réalité sainte qu'il procure. Voilà. Donc, là, on va travailler un peu plus sur l'efficacité des sacrements. Donc on repart un tout petit peu dans l'Ancien Testament pour dire que les rites de l'Ancien Testament étaient efficaces. C'est-à-dire que quand il y avait l'aspersion du sang sur les personnes au temple, enfin après un sacrifice, une offrande, en fait c'était censé être... c'était efficace pour redonner la vie. Et on a l'exemple manifeste au moment de la Pâque, quand il y a et ici, on a tous les enfants premiers-nés qui vont mourir. Et le sang sur les linteaux des portes des Israéliens protège. Et donc, le fléau ne passera pas chez eux. Donc, il y a une vraie efficacité, par exemple, de ce sang de sacrifice. Voilà, c'est le principe. Le sang, c'est toujours le symbole du principe vital. Hein, donc, ça expose la vie. Voilà. Et dans le rite du Kippour, qui est toujours actuel, le sang recouvre le péché et cache l'horreur du péché devant Dieu. Donc, il y a une vraie, une vraie action. Déjà dans l'Ancien Testament des rites, donc des rites efficaces. Là, on va un cran plus loin, puisque, comme dit saint Ambroise dans sa catéchèse baptismale, quand il dit, lorsque le prêtre prononce « ceci est mon corps », en fait, c'est la voix même de Jésus qui parle. Donc c'est vraiment, on dit d'ailleurs que le prêtre est une personne à Christi, donc c'est vraiment comme si Jésus nous parlait, et donc on a vraiment le pouvoir créateur dans « ceci est mon corps » qui opère. La parole de Dieu, elle est opérante. Voilà. Elle est performative. Dieu a dit que le monde soit et le monde a été. Voilà. Donc ça marche, c'est efficace. Alors, un grand passage du catéchisme de l'Église catholique qui m'a beaucoup, beaucoup servi pour ce cours, parce qu'en fait, il y a plein de trucs intéressants là-dedans. Alors, célébrer dignement dans la foi, les sacrements confèrent la grâce qu'ils signifient. Ils sont efficaces parce qu'en eux, le Christ lui-même est à l'œuvre. C'est lui qui bâtit, c'est lui qui agit dans ses sacrements afin de communiquer la grâce que le sacrement signifie. Et le Père exauce toujours la prière de l'Église et de son Fils, qui dans l'épiclèse de chaque sacrement exprime sa foi et la puissance de l'Esprit. Donc, notamment sur l'Eucharistie où il y a l'invocation de l'Esprit Saint. Et à plusieurs passages où le Christ nous dit, voilà, celui qui me demandera en mon nom, il sera exaucé par mon Père. Et donc, il y a cette efficacité parce que c'est le Christ lui-même. On l'avait vu dans le premier cours que les sacrements étaient institués par le Christ, non pas au sens strict du terme, au sens formel où il a fait tous les rites des sacrements et puis on fait comme lui. Non, mais c'est parce que c'est lui-même qui a la manœuvre, en fait. Voilà, donc c'est lui qui agit. Comme le feu transforme en lui tout ce qu'il touche, l'Esprit Saint transforme en vie divine ce qui est soumis à sa puissance. C'est là le sens de l'affirmation de l'Église. Les sacrements agissent, ex opere operato, littéralement par le fait même que l'action est accomplie. Voilà, donc on a une telle puissance créatrice que l'Esprit Saint qui est invoqué dans les sacrements, et ben il agit, voilà, c'est déjà l'action elle-même, quoi. Esprit Saint arrive, c'est déjà agi. Et ça, c'est dans la continuité, enfin, c'est le prolongement, c'est l'effet aujourd'hui de l'œuvre salvifique du Christ. Donc, on rejoint la passion du Christ sur la croix et qui s'accomplit pour nous. Il l'accomplit une fois pour toutes, mais elle s'accomplit aujourd'hui dans les sacrements pour nous. Donc, le sacrement n'est pas réalisé par la justice de l'homme qui le donne ou le reçoit, mais par la puissance de Dieu. Dès lors qu'un sacrement est célébré conformément à l'intention de l'Église, la puissance du Christ et de son esprit agit en lui et par lui, indépendamment de la sainteté personnelle du ministre. Ça a été beaucoup débattu, ça reste toujours une question pour beaucoup de personnes, de se dire, bah, finalement, quelle que soit la sainteté du ministre, alors on verra plus tard que c'est quand même mieux si le ministre est saint, c'est pas, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça peut marcher, ça marche même si, voilà. Parce que finalement, c'est l'Esprit Saint qui agit en direct, c'est le Christ qui est là. Et donc, ça passe même si l'instrument est médiocre. Et l'instrument, on sait tous qu'on est tous pécheurs. Donc de toute façon, l'instrument, il n'est pas au niveau. Quelle que soit la personne, que ce soit aussi bien celui qui reçoit que celui que le ministre ou le prêtre. Et donc, c'est heureusement que l'Esprit et la puissance du Christ agissent indépendamment, finalement, de ce que nous, on est. Voilà. Et c'était une des grandes hérésies au Moyen-Âge, là, à cette époque, du donatisme, qui disait que, en fait, c'était fonction du ministre. Il y a eu des persécutions, alors des prêtres qui avaient renié, qui sont revenus. Donc, on a dit, c'est pas possible, du coup, les sacrements n'étaient pas bons. Enfin, voilà. Et donc, d'où toute cette discussion, et qui a abouti sur le fait que, non, si on croit que le sacrement, c'est le Christ qui agit directement dans ce sacrement, et c'est indépendant de la sainteté du ministre. Voilà. Si Judas baptise, c'est le Christ qui baptise. Sont très claires. On ne sait pas si Judas a baptisé, mais en tout cas, s'il avait baptisé, ce serait quand même le Christ et le baptême serait valide. Voilà. Alors, saint Thomas d'Aquin, il cherche, donc lui, dans sa recherche, donc il a aussi pas mal travaillé sur cette histoire d'efficacité. Et lui, il est sur la cause efficiente et donc il utilise toujours les concepts des Grecs pour dire que c'est parce que la cause réelle, donc le cause primaire, enfin on pourrait dire la cause efficiente, celle qui agit vraiment et qui fait qu'il y a quelque chose, c'est Dieu, en fait. Donc l'agent principal, c'est Dieu, et finalement l'agent secondaire, c'est le ministre. Donc finalement, c'est ça qui fait que l'efficacité du sacrement est garantie, c'est parce que c'est Dieu lui-même qui est la cause du sacrement. Alors, quand même, il y a une petite nuance dans tous les textes, qui est que il faut un consentement minimal qui est de ne pas faire obstacle à la grâce. Voilà. Sinon, en fait, la grâce, elle passe pas, quoi, tout simplement. Vous pouvez dire, il y a le courant, si vous ne vous branchez pas, au bout d'un moment, le courant, il passe pas, quoi. Voilà. C'est pas qu'il n'est pas là, c'est qu'il ne peut pas traverser. Voilà. Donc, il y a au moins ce consentement minimal qui est de ne pas faire obstacle. Voilà. Alors, du coup, toutes ces visions un peu d'efficacité de sacrement, de cause efficient, sont très comme un processus physique. Voilà, on a la grâce qui agit, comment ça opère, qu'est-ce qui se passe mécanistiquement presque, mécaniquement. Et donc, l'approche des pères de l'Église est plus contemplative. Et c'est vrai que quand on lit toutes les catéchèses, il y a énormément de catéchèses baptismales pour toute la préparation des adultes au baptême, des pères de l'Église, que ce soit les pères cappadociens, que ce soit Saint Basile, il en a fait deux, je crois. Il y a Saint Ambroise qui a beaucoup écrit aussi. Voilà, eux, ils sont plus dans la contemplation en essayant de comprendre plus la totalité des choses et d'intégrer. Donc, il y a une approche plus contemplative que Saint Thomas qui est très technique presque. Mais c'est quand même utile de prôner cette efficacité et de se dire, le sacrement, il est efficace. Alors, c'est les sacrements du salut et donc la grâce qui passe. On a parlé un peu de l'Esprit Saint déjà, on a déjà commencé le sujet. Donc, le catéchisme de l'Église catholique nous dit, l'Église affirme que pour les croyants, les sacrements de la Nouvelle Alliance sont nécessaires au salut. Donc, c'est pas facultatif. La grâce sacramentelle est la grâce de l'Esprit Saint donnée par le Christ et propre à chaque sacrement. L'Esprit guérit et transforme ceux qui le reçoivent en les conformant au Fils de Dieu. Le fruit de la vie sacramentelle, c'est que l'Esprit d'adoption déifie les fidèles en les unissant vitalement au Fils unique, le Sauveur. Alors, on va reprendre un petit peu les différentes parties. Donc, en fait, il y a l'Esprit Saint qui nous est donné dans le sacrement. Donc, c'est le Dieu qui vient à notre rencontre dans le sacrement et qui vient nous retrouver là où on est. et il nous apporte le salut. Donc c'est bien la continuation de ce que le Christ a, quand il a donné sa vie sur la croix et après la résurrection, c'est ça qui continue dans les sacrements, c'est ça qui arrive. Voilà. Et quand on dit qu'on a le salut, c'est qu'on a le salut, c'est restaurer le lien avec Dieu et la capacité d'être fils de Dieu et de pouvoir dire oui à Dieu, finalement, ce que n'a pas fait Adam et Ève, au passage. Et donc, c'est ça qui nous remet fils et filles de Dieu, en capacité d'être fils et filles de Dieu et d'agir comme tel, d'obéir à Dieu. Et donc, et d'être édifié, d'être configuré comme au Christ. On devient frère du Christ en étant fils adoptif du Père. Et donc, quelque part, c'est comme si on devenait des dieux. Voilà. Ça ne se voit pas tout à fait là, à l'heure actuelle, présentement, mais on verra qu'on se prépare pour la fin des temps. Et en tout cas, c'est ce qui se passe dans chaque sacrement. Donc, c'est un peu comme si on était déjà des vrais fils et filles de Dieu, au sens très fort du terme. C'est ce que fait le baptême, puisque c'est ce qu'il introduit. Mais tous les sacrements le font, comme, voilà, comme une avance, on verra ça plus tard, une avance du royaume de Dieu. Voilà, et ça nous unit à Dieu. Ça restaure le lien avec Dieu. Voilà. Donc les sacrements ont deux effets. Ils produisent la grâce qui rend l'homme capable d'accomplir la volonté de Dieu. Donc d'un côté, ils nous redonnent la capacité de ne plus pécher, de nous retourner vers Dieu et de devenir enfant de Dieu. Et ils marquent l'âme de l'homme du sceau de Christ. Donc, quelque part, ils nous configurent au Christ. C'est ce qu'on dit dans le baptême. Hein. On est configuré au Christ. Ils nous transforment quelque part en Christ. C'est pour ça qu'on s'appelle chrétien d'ailleurs. Saint Thomas affirme que le sacrement chrétien symbolise la sanctification de grâce comme actuellement exercée, donc elle est réellement faite, opérante, et suscite notre engagement personnel dans l'œuvre de notre sanctification. Donc c'est là où on va rejoindre encore toute la notion de laisser faire à minima, et voilà que on peut avoir des fruits des sacrements qui vont au-delà si on essaye aussi de participer et d'œuvrer nous aussi. De dire oui, finalement. Voilà. Donc, le sacrement chrétien est le signe d'une réalité sainte qui sanctifie les hommes. Alors là, c'est ce que je vous ai dit déjà sur la passion du Christ. C'est la passion qui nous délivre de l'homme des péchés et péché qui nous éloignait de Dieu. Et donc, on est restauré dans la capacité à aimer Dieu, à être avec Dieu. Et donc, quelque part, on a la vie divine qui vient nous rejoindre dans notre être. Alors, il n'y a que trois sacrements qui nous marquent réellement d'un sceau, enfin, qui ont une action plus... parce qu'ils nous configurent et on dit qu'ils nous marquent de l'âme du sceau du Christ. C'est le baptême, puisque c'est la porte des sacrements, donc c'est le premier. Et effectivement, on est configuré aussi au Christ au sens strict. La confirmation, qui chez les orthodoxes est faite en même temps que le baptême et qui, de toute façon, a été assez longtemps associée au baptême. Et chez les adultes, et en général, fait en même temps. Et l'ordre, donc l'ordination des prêtres, qui mandate des hommes pour donner les sacrements. Dans ces trois sacrements, on a l'huile. Alors, il y a aussi l'huile des malades, mais bon, c'est une autre huile, je crois. Mais on verra ça quand on sera dans ces sacrements-là. Mais en tout cas, l'huile qui imprègne, voilà, ça nous montre cette idée de sceau. On est imprégné, et donc, quelque part, on est marqué du Christ. Alors, la question des sacrements et de la foi. Alors là, on va faire un petit passage par la réforme. Donc, les réformateurs, donc Luther, mais surtout Calvin, parce que Luther, encore, il croyait bien au baptême, donc plutôt comme un sacrement. Mais Calvin, c'est que il conteste le fait que les sacrements puissent apporter le salut. Puisqu'il se base sur une des phrases de l'Évangile qui dit « Seule la foi sauve ». Donc c'est la foi en Christ qui sauve. Donc les sacrements, c'est... Voilà. C'est pas la foi. Voilà. Donc ça ne sanctifie pas. Calvin pense que les sacrements, du coup, sont pleins d'efficace quand l'Esprit Saint besogne par dedans. Donc ça peut être pas mal pour nous aider à vivre et pour nous aider à mieux vivre de l'Esprit. Mais voilà, c'est juste utile. C'est pas ça aide à augmenter la foi, aide à la conversion, à la contrition. Mais il dit, il est erroné de leur attribuer quelques vertus secrètes. Ils sont œuvres humaines. Voilà. Donc pour lui, c'est vraiment des œuvres de l'Église, des hommes, qui ont leur mérite, mais pas différents des sacramentaux, de dire voilà, une bénédiction ou de ou dire un chapelet. Ou voilà. Parce que ça voudrait dire qu'on pourrait avoir la justice sans la foi. Et ça, on revient sur notre idée d'efficacité, c'est-à-dire finalement, même sans la foi, le sacrement pourrait opérer. Et du coup, le sacrement serait la cause de la justice, et pour lui, c'est pas possible, puisque le sacrement, c'est la cause de la justice, c'est le Christ, la passion du Christ et la foi en Christ. Donc le sacrement est considéré comme déclaratif, il n'opère rien, donc c'est juste un rite. Voilà. Alors, donc le Concile de Trente, c'est là où j'avais bien marqué la date, 1547, donne une doctrine équilibrée puisqu'il dit « Les sacrements contiennent la grâce, la signifient, la confèrent à ceux qui n'y mettent pas d'obstacle. Je vous ai mis un des... Alors, le Concile de Trente, comme il était en réaction par rapport à des hérésies, c'est que des phrases à l'inverse. Donc, on dit toutes les phrases négatives et on dit « Si vous croyez ça, vous êtes anathème. » Donc, vous n'êtes pas croyant. Voilà. Donc, c'est toujours un langage à la fin, mais je vous l'ai remis dans le bon ordre aussi pour que ce soit plus facile. Donc, si quelqu'un dit que les sacrements de la loi nouvelle ne contiennent pas la grâce qu'ils signifient ou qu'ils ne confèrent pas la grâce elle-même à ceux qui n'y mettent pas d'obstacle, donc il y a quand même cette notion qu'ils n'y mettent pas d'obstacle qu'on va creuser, comme s'ils n'étaient que des signes extérieurs de la grâce et de la justice reçue par la foi et des marques de profession chrétienne par laquelle les fidèles sont distingués des infidèles parmi les hommes, et qu'ils soient anathèmes. Alors, on le remet dans l'autre sens. Donc, nous affirmons que les sacrements de la nouvelle loi contiennent la grâce, qu'ils la communiquent à ceux qui n'y mettent pas d'obstacle. Ils ne sont pas les signes extérieurs de la grâce et de la justice reçus par la foi. Donc, c'est pas d'un côté, il y a la foi et la foi en Jésus, et puis d'autre côté, il y a des sacrements, comme s'il y avait un truc magique d'un côté, et puis d'autre côté, il y avait notre adhésion. Mais finalement, c'est beaucoup plus imbriqué, parce que les sacrements, ce qu'ils font, c'est qu'finalement, ils nous il faut rentrer la grâce en nous. Enfin, ils dilatent la grâce en nous. Et donc, du coup, il n'y a pas quelque chose d'extérieur et quelque chose d'intérieur. Le sacrement n'est pas une action mécanique de l'extérieur qui arriverait. C'est Dieu qui agit en nous, en fait, finalement, comme l'Esprit Saint. Et donc, on est sur la même cause qui produit la foi et qui fait grandir notre foi. Donc, c'est une vision... alors, ça, c'était un peu aussi le travers de saint Thomas d'Aquin. C'est qu'il en a fait un truc très mécanique avec la cause, les choses. Et puis, parce qu'on a ritualisé ça et on a dit qu'il fallait opérer d'une certaine façon. Et du coup, il faut revenir à cette notion de... Voilà, ça fait passer quelque chose. C'est Dieu qui agit en nous. Voilà, et c'est pas juste un rite magique. Voilà, donc le Concile de Trente ne s'attarde pas tellement sur le symbolisme sacramentaire, mais au moins il affirme cette chose qui est importante, qui est que c'est la grâce qui opère. Voilà. Ce que ne voient pas tellement les réformateurs, c'est que pour être sauvé, il faut que le Christ vienne nous rejoindre dans notre espace-temps. Et donc, quelque part, le sacrement, c'est l'actualisation. Et ça, ils ont du mal avec ça, parce qu'ils ont l'impression que ça refait la passion. Mais c'est l'actualisation que la passion qui a eu lieu il y a 2000 ans du Christ, et ben en fait, c'est pas qu'elle se revit là. Le Christ, il meurt pas à chaque messe, hein, Dieu merci. Mais il y a une notion comme atemporelle qui vient et qui vient nous rejoindre aujourd'hui dans notre histoire. Voilà. Et donc, il y a une rencontre pour arriver dans notre aujourd'hui. La croix vient en tangence de notre vie et le salut nous rejoint. C'est maintenant que nous sommes sauvés. Hier à la messe, le prêtre a donné une notion d'éternité qui est intéressante par rapport à l'infini du temps, qui est une succession qui ne s'arrête jamais d'événements. Voilà, donc l'infini. Et dit l'éternité, c'est un point, et c'est comme si le point il concentrait tout, en fait. Voilà. Et ben la passion du Christ et finalement l'actualisation dans les sacrements, c'est ça. C'est cet unique point qui se monnaie de notre côté, parce que nous, on est dans le temps à différents moments, en fait. Mais en fait, c'est le même point, c'est la même chose qui opère. Alors, de nouveau, le sacrement de la foi. Donc on dit, c'est un des termes très anciens pour parler des sacrements. Le Christ a envoyé ses apôtres afin qu'en son nom, il proclame à toutes les nations la conversion en vue de la rémission des péchés. De toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La mission est de baptiser, donc la mission sacramentelle est impliquée dans la mission d'évangéliser, parce que le sacrement est préparé par la parole de Dieu et par la foi qui est consentement à cette parole. Le peuple de Dieu est rassemblé d'abord par la parole de Dieu vivant. La proclamation de la parole est indispensable au ministère sacramentel, puisqu'il s'agit des sacrements de la foi, et que celle-ci a besoin de la parole pour naître et se nourrir. Donc là, c'est une autre façon de regarder les sacrements, qui n'est pas non plus déconnectée du reste, et donc extérieur et un peu rite magique. Mais c'est vraiment le sacrement qui s'inscrit dans toute une liturgie, finalement. On voit que les baptêmes, c'est mieux quand les baptêmes ils sont donnés pendant la messe, quoi. Il y a eu partage de la parole, etc. Et c'est un ensemble de choses. Pareil pour le sacrement du mariage, évidemment pour les ordinations. Enfin, on fait ça dans une messe. Donc il y a une préparation par la parole. Donc le sacrement, il n'est pas déconnecté du reste de la liturgie. Donc il est préparé par la parole de Dieu. Et par la foi qui est consentement à cette parole. Donc finalement, il y a l'écoute de la foi. Et là, on en revient toujours à un schéma Israël. Hein. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique, tu aimeras le Seigneur. Et ça commence par écoute Israël. Voilà. Et bien, il y a un peu ça dans les sacrements. C'est d'abord, il faut écouter. Voilà. Et donc la foi, elle n'est pas étrangère au sacrement. La foi n'est pas nécessaire. C'est-à-dire qu'il faut pas qu'il y ait il n'est pas nécessaire qu'il y ait un ministre saint ou que moi je sois un degré de sainteté, etc., pour recevoir le sacrement. D'ailleurs, sinon, comment on peut réaliser ce qu'est Jésus dans l'hostie? Enfin, voilà, c'est tellement gigantesque et tellement incroyable que même avec toute la foi, il nous faudrait une foi, la foi du Christ pour y arriver. Et donc du coup, on est toujours démunis par rapport à ça. On n'est jamais à la hauteur. Et donc on a besoin de la parole, de la préparation et de petits points de foi que nous avons pour recevoir le sacrement, comme on écoute la parole, et pour pouvoir ensuite le faire fructifier. Et donc la proclamation de la parole est indispensable au ministère sacramentel, puisqu'il s'agit des sacrements de la foi et que celle-ci a besoin de la parole pour naître et se nourrir. Et donc on a une double dimension, c'est à la foi elle est là avant, elle suppose la foi finalement, parce que si je viens recevoir un sacrement et que je ne crois pas, d'abord je ne vais pas venir recevoir un sacrement tout simplement, donc là c'est la première étape du coup qui se passe. Donc il y a quand même une démarche quelque part, le sacrement il ne vient pas, ceux qui passent dans la rue, pouf voilà, ça leur tombe dessus. Donc, il y a une démarche, en fait. C'est jamais étranger à une démarche. Il y a souvent un appel. Alors, pour l'ordination, c'est clair. Et voilà. Et donc, ça suppose la foi, même si elle est petite, pas assez significative. Et les paroles, les gestes effectués la nourrissent, la fortifient, l'expriment. Et donc, on a à la fois la foi qui permet que le sacrement vienne me rejoindre, finalement. Et on a la foi et aussi le sacrement qui a fait grandir notre foi. Voilà. Donc on est dans un cercle vertueux où la foi et le sacrement se nourrissent mutuellement. Parce que dans le cas, c'est finalement le sacrement, c'est Dieu qui vient nous rejoindre et la foi, c'est notre retour finalement en disant « je crois ». La foi de l'Église est antérieure à la foi du fidèle qui est invité à y adhérer. Quand les Églises célèbrent les sacrements, elles confessent la foi reçue des apôtres, de là à l'âge ancien. Bon, alors attends, je vais laisser ça de côté pour l'instant. Et c'est aussi ma foi personnelle, mais le sacrement, il n'est pas individuel. Et donc, finalement, il y a aussi toute cette foi de l'Église qui fait qu'on est porté. Et c'est aussi pour ça, par exemple, dans le baptême des petits-enfants, c'est les parents qui portent finalement la foi. Ce n'est pas le petit bébé qui, évidemment, ne peut rien dire et ne connaît pas. Et donc, il y a cette dimension ecclésiale qui fait que même si ma foi, moi, elle est trop petite et qu'elle... qu'elle est pas assez suffisante, l'Église en entier, elle m'appuie de toute cette foi qui est là. Voilà. Et donc, quand l'Église croit comme elle prie, et donc on a c'est les deux faces comme de la même pièce, où on a à la fois la loi de prière et la loi de la foi qui se répondent mutuellement. Et donc, le sacrement et la foi aussi se répondent mutuellement. Alors c'est pour ça que l'Église, elle le reçoit aussi, Donc, de la même façon que je disais, ben, moi, je le reçois un foie, voilà, c'est individuel aussi. Enfin, je le reçois dans la foi, donc je reçois, j'écoute. Et ben, l'Église aussi, elle a écouté et donc elle bouge pas les rites sacramentels. Il n'y a pas un jour, oh, ben, tiens, on va changer un peu ça parce que ça changera, ce sera mieux ou je ne sais pas quoi. Non, on ne peut pas les manipuler au gré des ministres parce qu'il y a comme un dépôt et toute une tradition qui s'appuie sur le Christ lui-même et qui se déploie, et qui est reçu aussi dans l'Église. Voilà. On reçoit aussi les sacrements, et donc la manière dont ça doit opérer. Le sacrement fait grandir la foi et suppose la foi pour donner du fruit. Donc c'est vrai que si on a un sacrement et que bah, y a pas la foi, bah, en fait, on voit pas ce qui s'opère, en fait. Donc on est puisque c'est une réalité invisible qui s'opère. Donc du coup, il faut qu'il y ait la foi pour révéler finalement ce qui se passe ou pour comprendre ou recevoir. Voilà. Donc le rite a une relation essentielle à la sanctification du croyant. Le sacrement fait appel à la foi du sujet qui le reçoit et il suscite son engagement personnel dans la vie chrétienne au sein de l'Église. Donc on n'a pas juste le sacrement et puis ben j'ai coché la case, c'est bon. Mais finalement, le signe, il doit, pour qu'il soit vraiment signe, il faut le décoder, il faut le relire, il faut, voilà, quand on doit découvrir des signes dans notre vie, bah, ça prend du temps, ça prend de, voilà, il faut être attentif, il faut parfois le faire à plusieurs pour les comprendre, pour les lire. On reçoit, et puis bah, après, on les devine. Et on, voilà. Donc il y a quelque chose de ça dans le sacrement, finalement, qui se prépare avant, et on l'a déjà vu sur la liturgie avec la parole qui le précède. Mais qui se prépare finalement dans toute notre vie de croyant. Voilà. Et donc, les sacrements, pour vraiment qu'on le reçoit et pour qu'il soit vivifiant, et ben, il y a aussi cette foi. Et plus on le reçoit saintement, plus il portera des fruits. Et plus le ministre est saint, plus probablement il portera aussi des fruits. Voilà, parce qu'on est humain et que ça passe aussi par ça. D'où vient à l'eau une si grande vertu qu'elle touche le corps et lave le cœur ? Ne lui vient-elle pas de la parole qui opère, non parce qu'elle est dite, mais parce qu'elle est crue ? Voilà. Donc il y a quelque chose quand même. Le Christ y passe, même si on n'est pas présent et que voilà, on n'est pas très attentif ni là. Mais c'est vrai qu'il passe mieux si on est présent, attentif et que la foi est là. Voilà. Donc c'est jamais exclusif. Voilà, il y a toujours un débordement avec Dieu. Qui fait que le sacrement, il opère, mais plus on est réceptif, bah, plus il va opérer de façon démultipliée. Voilà, c'est toujours la surabondance de Dieu. Le sacrement introduit la grâce divine en nous et nous fait communion à la vie divine. Et en fait, cette communion, elle ne peut se réaliser que si notre liberté accepte. Et finalement, si on est comme Marie, qui a dit Fiat, voilà, que cela soit pour moi. Et donc, si on exprime cette foi, eh ben, probablement que la grâce divine va se dilater en nous. Et on va en bénéficier plus largement. C'est aussi des signes qui ne sont pas forcément évidents. J'ai pas l'heure là-dessus. Moins le quart, donc ça. En fait, il y a aussi toujours une partie de voilée. Dieu, il ne se montre pas dans toute sa gloire, parce que sinon, notre liberté, elle ne pourrait pas agir. Il nous écraserait par sa gloire, parce qu'on n'est pas capable de la recevoir sans être terrassé. Et du coup, ces signes, et les sacrements, mais éminemment dans l'hostie, voilà, c'est un petit bout de pain tout blanc, tout fin, tout petit, et il se fait tout discret pour justement que... par un signe tout simple, mais tangible, il y a comme toujours un voile qui est là, parce qu'on le verra face à face à la fin des temps. Et donc ce voile, il nous permet que notre liberté, elle puisse jouer, quoi. Et que finalement, on ait une vraie réponse à donner, qu'on ne soit pas écrasé. Donc il y a aussi ce côté, le signe, il est discret, il n'est pas toujours lisible, parce qu'il y a aussi cette délicatesse de Dieu qui ne veut pas nous forcer, voilà, et qui vient nous respecter. En psychanalyse, on dit que quand il y a fusion, on peut pas. Il faut qu'il y ait une distance en fait pour pouvoir désirer, pour pouvoir aimer, etc. Et alors dans la foi, ce que dit Jean-Luc Marion, le propre de l'amour divin, c'est de se donner vraiment et pas juste en parole. Donc à la fois il est face à nous et à la fois il est en nous. Donc et à la fois la grâce qui est en nous et en même temps il y a une distance parce qu'il est aussi le tout autre et qu'il est il reste cette distance aussi avec avec Dieu et qui est aussi liée à la Trinité finalement. Voilà, la grâce est en nous, c'est l'Esprit Saint. Finalement, le Christ, il est face à nous, par exemple, quand on adore l'Eucharistie. Et puis, il y a le Père qui est là. Donc, du coup, on a toujours à la fois la notion de distance et à la fois cette... alors, on n'est jamais en fusion, hein, il n'y a pas de confusion. On est, voilà, mais cette intimité et cette, finalement, cette transformation, l'empreinte qui est faite en nous, au plus intime de nous, de la grâce du Dieu qui nous unit au Christ. Voilà, et la foi est cette, c'est aussi cette distance, comme la parole. Qui permet d'avoir cette réciprocité dans l'amour. Alors, dernière partie sur l'anticipation du royaume. Donc déjà, les sacrements, ils font l'Église, et l'Église en tant qu'épouse du Christ, ou le corps du Christ, on a les deux notions. Donc l'Église, elle est née en même temps que les sacrements à la Pentecôte. Mais aussi, elle naît des sacrements. Chaque fois que les sacrements interviennent, finalement, ça fait exister l'Église. S'il n'y a pas de baptême, il n'y aura plus de chrétiens et in fine, il n'y aura plus d'église. Voilà. Donc il y a aussi une vraie réalité, aussi tangible, enfin voilà, matérielle, de la construction de l'église par les sacrements et qui est le corps du Christ qui se construit, l'épouse du Christ qui se construit. Donc on a bien cette dimension où les sacrements font exister donc, par le baptême l'église, la font grandir par l'Eucharistie ou s'organiser avec les ministères. L'ordination. Voilà, elle naît dans les baptêmes qui lui donnent ses membres, qu'elle se régénère dans le pardon sans cesse renouvelé. Elle se fortifie et s'unifie dans le corps et le sang du Christ. L'Église est le premier sacrement, signe et moyen de l'union des hommes entre eux et avec Dieu. Donc là, on a aussi cette idée de individuel et collectif, et finalement, c'est aussi ça. C'est en tant que l'Église du Christ, c'est l'Église dans... Voilà. Le Christ élevé de terre a attiré à lui tous les hommes. Ressuscité des morts, il a répandu sur ses disciples son esprit vivifiant. Et par lui, il a constitué son corps, qui est l'Église, comme sacrement universel du salut. Assis à la droite du Père, il est sans cesse à l'œuvre dans le monde pour conduire les hommes à l'Église et se les unir plus étroitement par elle et les faire participer à sa vie glorieuse en les nourrissant de son propre corps et de son propre sang. Donc on est vraiment sur un organisme vivant. Il y a cette idée de vie et de surabondance. Voilà, sur cette réflexion sur l'Église, hein, qui est le sacrement du salut, le sacrement par excellence. Donc en fait, on a les sept sacrements, mais finalement, c'est l'Église qui est le sacrement, puisque c'est la réalité visible, chargée de communiquer la réalité invisible de l'union à Dieu par le Christ. Et l'Église, elle est efficace. C'est bien un sacrement. Elle donne les sacrements et elle rend efficace la présence de Dieu. Elle nous donne vraiment Dieu. Elle nous donne la parole de Dieu aussi. Les sacrements nous configurent au Christ. Donc là, on a vraiment l'idée que les sacrements, c'est alors là, ça reprend un peu cette idée d'un ensemble dans notre vie à nous. Voilà, il y a les sacrements, c'est un peu comme si on avait des pics d'intensité. On l'a éminemment dans la communion, puisque voilà, Jésus vient en nous. Voilà, il vient dans notre intimité. Donc c'est comme si on avait des moments d'incandescence un peu, mais qui sont prolongés avant. Par notre vie de prière, par le chapelet qu'on peut dire, par le fait qu'on va, même la charité en acte, qui est une forme d'œuvre de Dieu. Tout ça, c'est comme si les sacrements, c'était un peu la fine pointe qui nous faisait un peu exister le ciel déjà, qui nous configure encore plus intimement au Christ, mais on ne peut pas vivre en intensité aussi importante que ça. Et donc, du coup, on a aussi les moments où c'est un peu plus calme, voilà. Donc, ils respectent aussi notre façon de faire avec ces temps un peu, et on le voit dans la vie aussi liturgique, dans la vie les temps liturgiques. Voilà, il y a des temps forts, il y a des fêtes, il y a des temps plus ordinaires. Voilà, c'est pas qu'il se passe rien dans les temps ordinaires, mais voilà, on a aussi ce relief qui est mis et qui est important. Donc, il vient vraiment à notre rencontre, et l'Église à ce moment-là, elle est servante, elle est voilà, elle participe au sacerdoce du culte, à la mission prophétique de l'annonce et royale de service de la charité. Et donc, on a tout le cadre de la liturgie qui vient encapsuler quelque part les sacrements et qui vient nous permettre aussi d'être peut-être plus près pour ces moments d'incandescence et en tout cas pour nous les faire durer. Voilà. Je vous laisserai lire tout ça parce que je pense que sinon on ne va pas y arriver. J'aime beaucoup cette phrase du Père Giton. L'humanité chauffée par le Saint-Esprit reçoit l'empreinte du Christ. Je n'ai pas mis que c'était le Père Giton, mais c'est lui quand même. Voilà, donc c'est comme si on était préparé par toute la vie liturgique et la vie l'Église qui fait que voilà que on est plus prêt à recevoir les sacrements. Et puis on est aussi les sacrements, c'est aussi ça vient nous rejoindre dans des moments de vie où on rentre plus dans la façon dont Jésus a vécu un certain nombre de moments. Donc on rentre aussi dans son intimité à lui avec des moments aussi forts. Il y a eu 30 ans à Nazareth, donc c'est pas grand chose, mais quand même il y a le temple à 12 ans, et puis il y a des moments un peu plus incandescents, comme bah, évidemment la passion. Et donc cette inscription dans la durée, dans un rythme, c'est pédagogique et c'est bien respectueux de notre vie terrestre, vie corporelle, voilà, qui est marquée dans la durée et avec des rythmes. Et c'est important que la grâce, elle vienne nous modeler par des pas successifs. Voilà, parce que notre cœur, il est lent à croire, on est tous d'accord. Et alors, les sacrements qui anticipent le royaume à venir. Donc, Saint Thomas d'Aquin nous dit « Le sacrement est le signe qui remémore ce qui a précédé. » Je crois que je vous l'avais déjà donné la phrase la fois dernière, mais bon, c'est pas grave, elle est bien. « Le sacrement est le signe qui remémore ce qui a précédé, à savoir la passion du Christ. » Donc, elle nous connecte à l'unique événement de la passion et de la résurrection du Christ. Elle met en évidence ce qui s'opère en nous par la passion du Christ, à savoir la grâce, qu'est-ce qui vit en moi aujourd'hui et comment je chemine avec le Christ et que je suis configurée au Christ. Et puis elle pronostique, pas au sens le tiercé, mais elle annonce à l'avance la gloire à venir. Et donc elle nous tend vers la fin des temps. Donc en prenant la nature humaine, le Verbe de Dieu lui donne une réalité nouvelle, une élévation, une possibilité renouvelée d'accéder au surnaturel. Donc avec l'incarnation, en fait, on a les temps eschatologiques, qui veulent dire donc l'événement final, hein, la fin des temps, finalité, celui du profond renouvellement de notre nature humaine. Et donc les sacrements, on est déjà dans la vie nouvelle, en fait. Donc on est déjà dans le royaume, tout simplement. Les sacrements, ils nous transforment, ils sont déjà ces moments de la résurrection générale, finale, ces moments de face à face avec Dieu. C'est déjà pour maintenant, même si on a du mal, que c'est voilé, que c'est pas intense tout le temps, enfin à ce point-là, c'est pas aussi dense que ce qu'on voudrait, mais c'est déjà là. Et c'est bien ce qu'est l'Église, puisque l'Église nous prépare à cette... Elle est déjà le royaume de Dieu aujourd'hui, voilà. Et pour entrer dans la maison de Dieu, il faut franchir un seuil, symbole du passage du monde blessé par le péché au monde de la vie nouvelle, auquel tous les hommes sont appelés. L'Église visible symbolise la maison paternelle vers laquelle le peuple de Dieu est en marche et où le Père essuiera toutes larmes de leurs yeux. C'est pourquoi aussi l'Église est la maison de tous les enfants de Dieu, largement ouverte et accueillante. Et c'est important de se dire qu'il y a cette histoire de seuil et de progression, parce que on n'est pas tous au même rythme, mais les sacrements, ils sont pour chacun. Et finalement, c'est aussi la grande grâce des sacrements. Il y en a des répétitifs et il y en a des une fois seulement dans notre vie. Et c'est aussi, ça nous permet aussi d'avoir notre rythme et de pouvoir avancer dans cette maison. Et pour moi, pour tout le monde, hein, l'Eucharistie, c'est vraiment un petit bout du ciel. Voilà. Donc chaque fois qu'on est en adoration ou qu'on reçoit Jésus, c'est un peu comme si on était déjà au ciel. Et on est déjà en face à face avec Jésus et dans cette configuration, cette déification, où on devient vraiment enfant du Père. Voilà. Dieu a visité son peuple tant par la longue attente du Messie que par la plénitude de sa présence en Jésus, son Fils, et cette visite s'actualise par ses gestes voulus par lui, dans lesquels il nous fixe rendez-vous pour nous unir à lui. Et je vous ai mis un dernier passage du catéchisme. L'Église célèbre le mystère de son Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne et que Dieu soit tout en tous. Dès l'âge apostolique, la liturgie est attirée vers son terme par le gémissement de l'Esprit dans l'Église, Maranatha. La liturgie participe, veut dire viens. La liturgie participe ainsi au désir de Jésus. J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse dans le royaume de Dieu. Dans les sacrements du Christ, l'Église reçoit déjà les arts de son héritage. Elle participe déjà à la vie éternelle, tout en attendant la bienheureuse espérance et l'avènement de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. L'esprit et l'épouse disent « Viens, viens, Seigneur Jésus ». Donc c'est déjà là et pas encore.